Bonjour à toutes, bonjour à tous, Jérôme Longuet pour ce journal de la Radio des Nations Unies. Avec en titre l'importante réunion du Conseil de sécurité pour trouver une solution politique en Syrie, les 15 qui ont prorogé les mandats des missions en Irak et à Chypre, mais aussi la population mondiale qui devrait se rapprocher de 10 milliards d'habitants en 2050. Notre invité est Idriss Jazeri, le rapporteur spécial des droits de l'homme sur l'impact des sanctions, et puis 3 ans après sa création, état des lieux du camp jordanien de Za'atari qui accueille 81 000 réfugiés syriens. Une solution politique à la crise en Syrie, c'est ce qu'a présenté ce matin devant le Conseil de sécurité l'envoyé spécial du secrétaire général pour la Syrie, Staffan de Mistura. Les détails ont été débattus lors de consultations. Ainsi, dans ses grandes lignes, la stratégie vise à permettre aux Syriens de négocier un accord cadre relatif à la mise en œuvre du communiqué de Genève, le seul cadre reconnu sur le plan international pour trouver une issue à la crise en Syrie. Cette proposition a été ouvertement saluée par le secrétaire général qui a indiqué qu'en dépit d'importantes ligne de faille, il existe des points de consensus sur la base desquels peut s'édifier un processus politique crédible. Car personne, a affirmé Ban Ki-moon, ne veut risquer le chaos d'une transition non contrôlée à Damas. Et de nombreux Syriens ont averti que le pays est en train d'entrer dans un cycle de fragmentation et de radicalisation dont il sera difficile de l'extirper. Cela étant, le principal obstacle demeure la création d'un organe de gouvernance transitionnel. On écoute Staffan de Mistura.
Bien qu'un terrain d'entente existe, la question de la dévolution du pouvoir exécutif vers un organe de transition demeure l'élément qui divise le plus. Pour certains, l'organe de gouvernance transitionnelle est un instrument de transmission du pouvoir. Certains groupes politiques et armés de l'opposition rejettent toute idée d'un partage du pouvoir avec l'actuel gouvernement de Damas. Le gouvernement syrien a accepté en théorie de discuter de l'organe de gouvernance transitionnelle lors de la conférence Genève II, mais continue de rejeter le concept, le considérant comme non constitutionnel.
Staffan de Mistura, l'envoyé spécial pour la Syrie, qui a aussi annoncé son intention d'organiser prochainement des discussions simultanées et parallèles avec les parties syriennes. Auparavant, les 15 avaient prorogé d'un an le mandat de la MANUI, la mission d'assistance des Nations Unies pour l'Irak, le même conseil qui a ensuite prorogé le mandat de l'UNFICIP, la mission des Nations Unies à Chypre, jusqu'au 31 janvier 2016, et qui a demandé instamment la mise en œuvre de mesures de confiance, dont l'ouverture de nouveaux points de passage. Les 15 se sont félicités de la reprise des pour parler entre le leader chypriote grec et sa contrepartie chypriote turque et de progrès enregistrés. Des progrès marqués par un nouvel état d'esprit, fourni donc et tourné vers la résolution de problèmes dont le conseiller spécial du secrétaire général Espen Barth Eide a fait part lors de son passage à New York il y a une semaine, esprit qui se répercute au-delà des pourparlers.
Les pourparlers traitent principalement des modalités pour convenir d'une Chypre fédérale unie, bicommunautaire et bizonale, qui respecte l'égalité politique des partis chypriotes grecs et turcs, mais aussi munie d'une constitution démocratique moderne dans l'Europe de 2015. C'est l'objectif principal des négociations, et en marge de celles-ci, ils résolvent des problèmes de tous les jours à travers des mesures de confiance. Ils ouvrent de nouveaux passages pour permettre de se rendre plus facilement d'un côté de l'île à l'autre, ils raccordent les réseaux électriques et ils travaillent sur quelque chose qui est très important pour de nombreux Chypriotes, la connectivité du téléphone, ce qui signifie que, fondamentalement, vous pouvez apporter votre téléphone mobile d'un côté et de l'autre de l'île et qu'il va fonctionner. Cela fonctionnait partout ailleurs sur la planète, mais pas à Chypre. À présent, ça va fonctionner.
La population mondiale devrait atteindre 9,7 milliards d'habitants d'ici 2050, selon un dernier rapport de l'ONU. La majeure partie de cette augmentation est prévue dans les régions en développement. La croissance de la population mondiale pour les 45 prochaines années devrait se concentrer dans 9 pays, à savoir l'Inde, le Nigeria, le Pakistan, la République démocratique du Congo, l'Éthiopie, la Tanzanie, les États-Unis, l'Indonésie et l'Ouganda. Le rapport sur les prévisions en matière de population indique aussi que l'Inde pourrait dépasser la Chine vers 2022 et que le nombre d'habitants au Nigeria pourrait dépasser celui des États-Unis d'ici 2050. François Pelletier est l'un des démographes qui a travaillé sur ce rapport. Il fait un bilan de la population en 2015.
Selon les résultats de la révision 2015, des perspectives de la population mondiale, la population du monde actuellement est estimée à 7,3 milliards d'habitants et la population mondiale a connu depuis les 12 dernières années une augmentation d'environ 1 milliard. Au niveau de répartition géographique à travers le monde, l'Asie constitue 60 % de la population mondiale. Plusieurs pays, dont l'Inde, la Chine, qui représentent ensemble 40 % environ. L'Afrique constitue 16 % aujourd'hui. L'Europe, 10 % l'Amérique latine et bon, l'Amérique du Nord, 9 et 5 % avec l'Océanie. Dans cette révision-ci, je dirais qu'en termes de réévaluation, je dirais que c'est la mortalité qui a changé le plus. Il y a eu des progrès importants dans plusieurs pays africains au niveau de la mortalité, dont la mortalité dans l'enfance, ce qui a un impact assez important sur l'espérance de vie à la naissance.
Enfin, le rapport d'ONU Femmes sur les progrès des femmes dans le monde 2015-2016 fait l'objet d'une présentation ce mercredi au Pakistan. En fait, cet important document concerne toutes les régions du monde, y compris l'Afrique de l'Ouest, où s'ajoutent aux défis traditionnels certaines difficultés liées notamment au climat et à la sécheresse que connaît le Sahel. On écoute Diana Ofwana, la directrice régionale d'ONU Femmes, jointe à Dakar.
Il y a des grands écarts de salaire qui s'élèvent parfois à 30 % atteignant 62,5 dans certains pays sahéliens. On voit aussi une situation où 75 % des femmes sont dans des emplois informels. Et dans ce cas-là, il y a des problèmes de couverture sociale. Les femmes, là, sont pas soumises au code de l'emploi, sont même pas comptées dans ce qu'on appelle le national budget. Il y a les soins non numérés qui pose un grand problème. Dans la situation politique, la participation des femmes dans les instances de prise de décision, dans cette région, on est à moins de 30%. Il y a aussi tous les problèmes de la sécheresse, le problème surtout du Sahel.
Vous écoutez un programme de la Radio des Nations Unies.
Il est temps de lever les sanctions contre Cuba et l'Iran pour protéger les personnes les plus vulnérables des sociétés de ces pays. C'est ce qu'a déclaré ce mercredi le nouveau rapporteur spécial sur l'impact négatif des mesures coercitives unilatérales qui doit présenter son premier rapport au Conseil des droits de l'homme en septembre. Idriss Jazeri, qui estime que ce ne sont pas les sanctions qui ont forcé l'Iran à s'asseoir à la table des négociations sur son programme nucléaire. Au micro de Daniel Johnson, il revient sur la mission qui lui a été confiée.
Mon mandat a pour objet d'aborder les aspects négatifs des mesures coercitives unilatérales appliquées par certains pays en direction soit d'autres pays, soit d'autres entités, soit d'autres personnes. Les préoccupations se sont exprimées de plus en plus au fil des ans, depuis les premières mesures de caractère global appliquées contre l'Irak pendant les épreuves militaires que ce pays a subies, pour ensuite s'étendre à d'autres pays où les sanctions ont provoqué des effets extrêmement difficiles sur des groupes particuliers de population. Donc il y a des effets directs et des effets indirects, des effets très souvent involontaires de la part des pays qui appliquent ces mesures unilatérales coercitives que l'on distingue des sanctions dans ce sens que les sanctions sont des mesures légitimes appliquées par le Conseil de sécurité dans le cadre d'une procédure internationalement reconnue. Les mesures coercitives unilatérales sont des mesures appliquées en dehors du cadre du Conseil de sécurité. Quelquefois, elles complètent les mesures du Conseil de sécurité. Quelquefois, elles vont dans une autre direction.
Mais comme vous avez dit, l'effet de quelques sanctions sont involontaires. Mais quand même, il y avait beaucoup de mal à lire un nouveau rapporteur spécial sur les sanctions internationales.
Avec la création de ce mandat, on amène tous les États, que ce soit les États nationaux dans le cadre de leur politique nationale ou les États étrangers dont les actions ont des conséquences sur les droits de l'homme dans certains pays, on les amène tous à s'interroger sur le bien fondé de ces mesures et sur leur impact et on essaye ensemble d'aborder des manières d'atténuer les effets négatifs, d'adopter des règles de comportement qui permettent peut-être de poursuivre l'objectif en ménageant les effets négatifs sur les populations les plus vulnérables.
En fait, c'est ça votre objectif en tant que premier rapporteur spatial sur les sanctions et les mesures unilatérales coercitives. Vous voulez qu'il y ait un peu plus de transparence, en fait, au niveau international, au niveau des sanctions.
Je voudrais que, premièrement, il y ait plus de transparence, que l'on sache quelle est l'étendue de ce problème. Deuxièmement, que l'on se mette d'accord sur des définitions. Qu'est-ce que c'est que les sanctions? Qu'est-ce que c'est que les mesures coercitives unilatérales en termes juridiques, en termes de droit international? Et troisièmement...
Désolé de vous interrompre, mais en fait, fait, il n'existe en fait pas pour l'instant une définition exacte de ces mesures coercitives.
Chacun les donne aux mesures qu'il prend des noms qui justifient les mesures adoptées. Par exemple, beaucoup d'États qui appliquent des mesures coercitives unilatérales les appellent des sanctions. Mais une sanction, ça veut dire que quelqu'un a l'autorité de sanctionner et que d'autre part, d'autres États sont soumis à des sanctions, sont donc dans une position subordonnée. Donc ça va à l'encontre un peu de la charte des Nations Unies qui ne reconnaît ce droit qu'au Conseil de sécurité. Mais quid des autres mesures coercitives unilatérales? Il y a peut-être toute une gamme, mais il faut aborder cette gamme à la lumière du droit international dans le but de veiller au respect du droit international en même temps qu'à la protection des droits des populations les plus vulnérables en matière de droits de l'homme. Et je parle de droits essentiels, le droit à la vie, le droit à l'alimentation, le droit à l'éducation, le droit à la santé.
Le camp jordanien de Za'atari, le plus grand camp de réfugiés au Moyen-Orient, a 3 ans cette semaine. Le 29 juillet 2012, le camp de Za'atari, situé dans le nord de la Jordanie, a été créé en raison de l'énorme afflux de réfugiés observés dans la région en l'espace de 9 jours. Aujourd'hui, le camp abrite près de 81 000 Syriens. État des lieux avec Ovig Etiemesian, il est manager du camp de Za'atari, des propos recueillis par Christina Silvero.
Aujourd'hui, au camp, on a encore 81 000 réfugiés. La plupart des réfugiés viennent de Daraa, qui est à 25 km du camp. On a et on continue d'investir dans l'infrastructure pour rendre la vie dans le camp plus confortable. Aujourd'hui, on a quasiment plus de réfugiés qui vivent dans des tentes. Grâce au soutien des bailleurs de fonds, on a pu doter les réfugiés avec des maisons préfabriquées. On a toujours des difficultés de l'électricité. La situation s'est améliorée. Aujourd'hui, on arrive à donner de l'électricité de 7h de la nuit jusqu'à 5h du matin d'une manière régulière. Par contre, le coût d'électricité est extrêmement élevé. On est arrivé à un moment à payer à peu près $1 million par mois pour l'électricité du camp. Donc, on est dans l'optique encore d'investir plus dans le réseau pour pouvoir améliorer les services d'électricité.
Quelle est la source d'électricité? Est-ce qu'il y a des panneaux solaires?
En fait, la source aujourd'hui, c'est le réseau d'électricité jordanien. Par contre, le gouvernement allemand a fait une bonne donation pour construire une station d'électricité avec des panneaux solaires. Le projet a commencé, mais les stations ne vont pas être prêtes jusqu'à fin 2016. Par contre, il y a des initiatives individuelles où certains réfugiés ont acheté des petits panneaux solaires pour charger leur téléphone. D'autres ont acheté des petits générateurs. Donc on est en train de voir un peu comment on peut aussi faciliter l'accès à des panneaux solaires de titre individuel et aussi de distribuer des lampes qui sauvegardent l'énergie. Donc il y a pas mal d'initiatives dans le camp pour économiser l'électricité.
Qui sont les résidents du camp Za'atari aujourd'hui?
Sont des Syriens qui viennent en majorité de Daraa. La représentation du genre est assez équitable. Par contre, le taux de natalité est assez élevé dans le camp. Donc, on a beaucoup, beaucoup de jeunes en âge scolaire. Et l'un de nos grands défis, c'est d'assurer non seulement les études primaires et secondaires, mais aussi de trouver des opportunités pour des études universitaires.
À quel genre de problèmes sont confrontés ces jeunes et ces enfants suite à leur manque d'opportunités aujourd'hui?
Aujourd'hui, le manque d'opportunités est en train de nous faire perdre des générations parce que ces enfants, ils ne sont pas à l'école. Ils vont aller travailler dans des métiers journaliers pour aider leur famille. Donc, les parents, au lieu d'envoyer leurs enfants à l'école, ils vont les envoyer pour travailler. Donc, en fait, pour moi, le premier souci, c'est le futur. Et quand je dis le futur, c'est en fait ces générations d'enfants et de jeunes et le manque d'opportunités scolaires pour eux.
Est-ce que ça les rend d'autant plus vulnérables?
Ben oui, certainement. Et on commence à voir des moyens de survie négatifs. Ça veut dire les enfants, surtout les jeunes filles, sont mariées à l'extérieur de la famille comme une manière de survie économique, tandis que ces filles-là doivent être à l'école ou à l'université. Donc par manque d'opportunités et par le fait que économiquement les réfugiés sont dans une situation assez précaire, les parents sont en train de prendre des mauvais choix pour l'Europe.
Quel est le message du HCR à l'occasion du 3e anniversaire du camp de Za'atari en Jordanie?
Le premier message, c'est qu'on espère que la guerre va finir bientôt. bientôt parce que c'est très difficile de continuer à vivre dans des pays d'asile pour les réfugiés syriens. Le deuxième message, c'est que le monde ne doit pas oublier que ces réfugiés sont dépendants de l'assistance humanitaire. Et on est en train de voir que le monde commence à les oublier par le manque de financement. Et dernièrement, on doit se concentrer sur la jeunesse et donner l'opportunité à ces jeunes de ne pas perdre leur année dans les pays d'asile et de continuer leur éducation jusqu'à ce que le moment où on a la paix et que les gens rentrent.
Voilà, c'est ainsi que se referme ce journal de la Radio des Nations Unies, un journal à retrouver sur l'Internet. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même heure, même fréquence.